Chapitre 8. C'était le père Hubert qui revenait. Rentré chez lui, se souvenant qu'il avait oublié de remettre au percepteur le reçu de la somme que ce dernier lui prêtait, il s'était empressé de confectionner la reconnaissance de dette qu'il apportait. Par une inconcevable étourderie de ma part, fit-il quand il fut entré en tendant son papier déplié à Julien. Nous avons omis ce détail. Voici votre reçu. C'est mal écrit, mais c'est en règle. Taillefer prit la pièce et la déposa sur la table sans la lire. En s'avançant, le vigneron remarqua que Julien n'était pas seul. Quoique mademoiselle de la Rochetière s'efforçât de rester dans l'ombre, il n'eut pas de peine à deviner les formes indécises d'une femme. Rapprochant de cette coïncidence la tristesse dont le visage du percepteur était empreint, il comprit que quelque chose de très grave survenait et, le service rendu, lui faisant un devoir de s'intéresser à tout ce qui touchait à celui qui, spontanément, l'avait obligé, il demanda « Que vous arrive-t-il? Je crois pressentir que vous n'êtes pas heureux. Disposez de moi si je puis vous être utile en quelque chose. » Pour couper court à ces questions et aussi pour mettre fin au tourment de Diane qui se morfondait à sa place, Julien lui expliqua tout. Quelques mots lui suffirent pour raconter le drame du rocher fendu. Il dit son amour pour mademoiselle de la Rochetière, les difficultés que leur projet à tous deux ne parvenait pas à surmonter et, à mesure qu'il parlait, à mesure qu'il précisait les faits, le vigneron, les yeux fixés à terre, les bras croisés sur sa robuste poitrine, devenait plus pensif. Un assez long silence se fit. Mentalement, le père Hubert, le front plissé, interrogeait ses souvenirs. « Quel jour cela s'est-il passé ? » dit-il tout à coup. « Le 19 septembre, un mardi matin, » répondit Taillefer. « J'étais précisément au carrefour du rocher fendu ce matin-là. » « Vous en êtes sûr ?»« Parfaitement sûr. Attendez. Je me souviens même que j'ai envoyé un coup de fusil à l'endroit que vous indiquez. »« Ne vous trompez-vous point, insista Julien. » »« Non, je vous affirme que non. Il me semble que je suis encore là-bas. J'ai fait feu, je ne sais plus sur quoi, et, chose bizarre, après la détonation, j'ai cru entendre comme un soupir près de moi. » Et ce gémissement ne vous a pas donné l'éveil ? Non, monsieur, mon attention ne s'est pas portée là-dessus. Je n'avais point de port d'armes, le soleil était déjà haut, la crainte de rencontrer les gendarmes me fit rentrer plus tôt que de coutume. Alors tout s'explique, s'écria le percepteur, transporté d'une joie fébrile provenant de la tension de ses facultés, mais n'osant achever. En effet, je commence à comprendre, répliqua Hubert. Le gémissement, c'était monsieur le marquis de Montbel qui le poussait, et c'était moi qui, involontairement, l'avais blessé. Je sais ce qu'il me reste à faire. Complétez votre pensée. Il n'est pas juste que vous restiez plus longtemps frappé de cette accusation. De ce pas, je vais réparer tout le mal que vous avez subi à cause d'une imprudence dont seul je dois être responsable. Comment y parviendrez-vous ? En me livrant moi-même à la justice. Une éclatante réparation vous est due. Vous l'auriez déjà si j'avais été au courant de tous les détails de cette déplorable aventure. » La soudaine réapparition de Claudius, que suivait M. de la Rochetière, interrompit cette confession tardive. Ces messieurs, trouvant la porte de la rue fermée, avaient contourné la maison et arrivaient par le parterre. « Je vous dis qu'il n'y a personne !» articulait le baron. « Inutile d'aller plus loin. » « Avancez toujours, répliquait le juge. Je prétends, moi, que nous ne reviendrons pas bredouille. J'ai mes raisons pour le savoir. »« Quelle raison ? » ?»« C'est mon affaire. Avancez, sacrebleu, avancez !» Et comme, selon lui, son ami n'allongeait pas suffisamment le pas, il passa son bras sous le sien et l'entraîna de force. Ils entrèrent. À la vue de son père, Diane, quoique prise au piège, ne pâlit seulement pas. Décidée à tout affronter, elle alla droit à Claudius et dit, sans lui donner le temps de prendre l'air étonné avec lequel il espérait dérouter les soupçons, « Parrain, quel que soit le but de votre visite, laissez-moi vous annoncer une bonne nouvelle. L'auteur de la prétendue tentative d'assassinat dont M. de Montbel se disait victime est découvert. » « Allons donc, que m'apprends-tu là ? s'écria le juge, tombant de son haut.
« La vérité !»«
Et où est cet individu ?»«
Le voilà !»
fit-elle en montrant Hubert. Claudius l'examina longuement, puis, relevant le front, murmura, l'air farouche. « Ah oui, Hubert, une vieille connaissance. Le braconnage et la maraude lui ont valu de nombreuses condamnations. Au fait, j'aurais dû songer à lui. » Il ajouta, à voix haute, le visage tourné vers Julien. « Par quel moyen avez-vous appris que cet homme avait trempé dans l'affaire ?»«
C'est lui qui a bien voulu nous faire ses confidences, » dit Taillefer, que les allées et venues de M. de la Rochetière laissaient dans la plus complète impassibilité.
« Et vous ne le soupçonniez pas ?»«
En aucune façon.
De sorte que c'est de son propre mouvement qu'il a parlé.
Je vous assure que nul ne l'y a contraint. »
« Alors, reprit Laurence, je ne m'explique pas pourquoi, sachant que l'accusation compromettait votre tranquillité, il a tant tardé à se montrer. C'était cependant ce dont il aurait fallu s'occuper dès la première heure.
« Monsieur le juge, intervint le braconnier, vous n'auriez pas eu l'occasion de m'adresser ce reproche qui prend beaucoup trop d'importance dans votre bouche si j'avais connu plus tôt tous les détails de l'affaire du rocher fendu. Mais j'ignorais ce qui s'était passé là-bas. » Je savais seulement, j'avais ouï dire, que M. Taillefer était accusé d'avoir, volontairement, tiré sur M. de Montbel. Dans de pareilles conditions, n'auriez-vous pas agi vous-même comme j'ai agi ?
Je suis à demi convaincu, déclara Claudius. Ce n'est pas tout. Quelle décision comptez-vous prendre ?
Celle à laquelle s'arrêteraient tous les honnêtes gens et qui doit aboutir à ceci, renouveler devant l'autorité la déclaration que je viens de vous faire.
Je retiens cette réponse, et dans votre intérêt, je vous engage à vous souvenir qu'il ne suffit pas de promettre. J'en ai suffisamment entendu pour, au cas où vous ne vous exécuteriez pas, pouvoir vous faire mettre à l'ombre à la première occasion.
Vous n'aurez pas besoin de recourir à la violence. Où faut-il que je fasse ma déposition ? Demanda Hubert après une pause.
Adressez-vous de ma part à la gendarmerie. Là, on vous renseignera.
« Merci, monsieur le juge. Dans moins d'un quart d'heure, la vérité sera connue. »
Il salua respectueusement le percepteur et Claudius, ébaucha devant Diane un semblant de révérence qui, sans la gravité du moment, eut soulevé des sourires et disparut dans le jardin.
« C'est tout de même un brave homme, » dit le juge de paix lorsqu'il eut perdu dans le brouillard.
« Il n'y a pas lieu de désespérer de l'espèce humaine puisqu'elle produit encore des sujets de ce calibre. »
La journée finissait. Maintenant, après avoir léché les soubassements des murs, les rayons solaires s'allongeaient sur la blancheur du plafond et, dans la nuit montante, cette lueur de brasier dont le reflet donnait plus de relief aux êtres et aux choses emplissait l'atelier d'une mélancolie troublante. Laurence revint sur ses pas et, se campant en face du baron qui ne soufflait mot, reprit sur un ton plus gai
« Nous avons fait le plus gros de la besogne !» « À nous deux, mon compère, nous allons voir jusqu'à quel point vous êtes conséquent avec vous-même. »
Monsieur de la Rochetière, visiblement embarrassé, se leva.
« Où voulez-vous en venir ? » fit-il, tandis que Julien et Diane, devinant le suprême combat, l'observaient.
« Un peu de patience et vous le saurez. Ne m'avez-vous pas dit, il y a fort peu de temps de cela ? C'est dommage qu'un doute fâcheux plane sur le nom de Monsieur Taillefer. » J'ai appris à l'apprécier. Il y a du bon sens dans cette nature fougueuse. S'il avait réussi à éviter la prison préventive, j'aurais peut-être consenti à un mariage avec ma fille.
Je me plais à reconnaître que vous possédez parfaitement vos textes, dit le baron en donnant à ses paroles une intonation aigre-douce.
Eh bien, à cette heure, je déclare hautement que M. Taillefer n'a jamais cessé d'être un parfait honnête homme. Je viens d'en avoir la preuve. Je me repens de l'avoir maladroitement persécuté. Je dis plus, je vous somme de m'aider à l'indemniser de ses souffrances passées.
Comment cela ?
Parbleu, en lui accordant ma filleule qui brûle d'avoir l'honneur de porter son nom. Elle est là, demandez-lui si elle a l'intention de me démentir.
Vous m'obligeriez en ne revenant pas sur ce chapitre, répliqua sèchement M. de la Rochetière.
Le juge de paix ne se décontenançait pas pour si peu. Il reprit, s'échauffant à mesure que la résistance lui paraissait plus tenace. « Il faut cependant que cette question soit définitivement tranchée. L'occasion ne sera pas toujours aussi belle pour y revenir. Raisonnons. J'aurais compris que vous vous opposiez au mariage de Diane avec M. Taillefer, alors surtout que de graves soupçons pesaient sur lui. Mais aujourd'hui que son innocence est proclamée partout, qu'il est blanc comme neige, aujourd'hui que le coupable est allé lui-même se livrer aux mains des justiciers, j'ai le devoir de vous demander pourquoi vous le repoussez. » « Eh bien, fit le baron, parce que Diane ne peut épouser que quelqu'un de sa race. » « Ah, voilà le grand mot lâché. Diane ne doit épouser que quelqu'un de sa race. Et M. Taillefer n'a pas la particule. » « Mais, sapristi, ajouta-t-il en tendant la main à Julien, il a la noblesse du cœur et celle-ci vaut bien celle-là. » « Affaire de principe. Vous savez que je ne transige jamais avec les miens. » « Ah oui, parlons-en de vos fameux principes, s'écria Claudius. Ils sont passés de mode comme les crinolines d'antan et les faux chignons. À l'heure qu'il est, mon vieil ami, à égalité d'intelligence, bien entendu, tous les hommes se valent et je ne connais pas de titre de duc ou de comte, si authentique qu'il soit, qui vaille une réputation de probité et d'honneur hardiment conquise au grand soleil. » Plaidez, plaidez, vous me faites entendre de très jolies périodes, mais vous ne me convertirez pas. Alors, tant pis pour vous, je vous renierai. Vous oseriez, commença M. de la Rochetière. Pourquoi pas, si vous m'y contraigniez. J'aurais pu m'attendre à cela de la part de quelqu'un d'autre, mais de vous. Rassurez-vous, j'ai encore assez de confiance en votre raison pour croire que nous n'en viendrons pas là. Dans un an d'ici, ma filleule et votre gendre vous auront donné un petit-fils. Je parie que ce sera un petit-fils qui vous fera oublier toutes ces vétilles. La sévérité de vos fameux principes ne tiendra pas devant les clairs éclats de rire de ce bébé. Tenez, je vous vois déjà, armé d'un biberon, le tablier blanc à la ceinture, berçant le marmot, souffrant de sa souffrance, épiant le premier nom dont il vous appellera, ou pleurant de joie lorsque ses petites mains transparentes se crisperont vers vous. Allons, morbleu, ne vous défendez pas d'être, comme nous tous, sensible à ces intimes bonheurs du foyer, car dans ce cas, vous seriez le dernier des pères. « Tout cela est très vrai, j'en conviens, » balbutia le baron, ému malgré lui. « Mais le marquis Patrice, que deviendra-t-il au milieu de ces péripéties diverses ?»« Oh, celui-là, je m'en charge. Sans lui, notre paix à tous n'eût pas été troublée. » Puis il m'a fait commettre une bourde que je n'oublierai pas de longtemps. Expédiez-le-moi donc au plus vite. Je vous promets de régler son compte de manière à ce que les contestations soient impossibles. Et, à présent que toutes les difficultés sont aplanies, consentez-vous, oui ou non, à ce que ma jolie fille d'or soit désormais la compagne aimée de mon ami, le percepteur Taillefer ? « Je vous en conjure, mon père, » supplia Diane, rouge comme une cerise. « La joie de ma vie est dans vos mains. Ne répondez pas par un refus. » « Et comment diable veux-tu que je refuse ?» fit M. de la Rochetière, suffoqué par les sanglots. « Ce monstre-là ferait venir la chair de poule à des bandes de granit. » « Enfin, » dit le juge, « je savais bien qu'en y mettant un peu de peine, il finirait par capituler. » « Allons, » continua-t-il avec son imperturbable bonne humeur, « embrassez-vous et à 3 semaines, la célébration du mariage à l'église avec Berthelin pour garçon d'honneur et moi comme second témoin. » Obéissant à la même pensée, Diane et Julien s'étaient réfugiés dans les bras du baron qui, réunissant leurs têtes dans un seul baiser, les serrait contre lui en bégayant. « Mes chers enfants, j'ai été fou, je vous ai méconnus l'un et l'autre. » Sans l'énergique intervention de Claudius, mon entêtement à défendre des idées en retard sur la marche progressive du siècle faisait votre malheur à tous deux. Pardonnez-moi ces heures d'aveuglement. « Nous n'avons qu'à vous bénir, mon père, » soupira Diane, maintenant toute blanche. « Nous savions qu'avec le temps, vous reviendriez à des sentiments meilleurs, » dit Taillefer, qui avait déjà abandonné ses désespérances ainsi que ses combinaisons de suicide. « Soyez heureux, » reprit M. de la Rochetière, « je saurai vous faire oublier tout ce que vous avez souffert à cause de moi et par moi. » et se retournant tout à coup vers Claudius, qui, un peu à l'écart, et attendri, lui aussi, par le spectacle de ces jeunes gens éperdus d'amour, que les derniers feux de l'astre enveloppaient d'une resplendissante auréole. « Eh bien, et vous, fit-il, vous nous boudez à présent ?»« Et non, répliqua le fondateur de la Société des Quatuors de Sainte-Cécile, en essuyant furtivement ses yeux mouillés, « je songe à Titus, et comme lui, vive Dieu, je suis satisfait de pouvoir dire... « Je n'ai pas perdu ma journée. »